Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont toujours visibles sur le site radioalpa.com. Devinez, sur la page de l'émission Radicaux Libres. On aurait pu cette semaine vous parler de plein de choses. On aurait pu vous parler par exemple des manifestations fascistes en France. L'an dernier, le préfet de police Laurent Nunez n'avait pas jugé utile de s'attaquer à la manifestation annuelle du collectif du 9 mai. Cela avait permis à des centaines de fascistes revendiqués comme tels de marcher dans les rues avec drapeau et cagoule. Pas la moindre force de l'ordre, non. Sauf peut-être dans le cortège, hein. Bah oui, parce qu'on sait quand même qu'il y a une partie de nos forces de l'ordre qui sont tout à fait d'accord avec ce que propose les fascistes du collectif du 9 mai. Pour vous en convaincre, il suffit de, par exemple, lire les enquêtes de Street Press sur les nazis qui sont présents dans l'armée française et dans la police. Idem sur les enquêtes qui ont pu être faites sur des boucles WhatsApp ou des discussions Telegram dans lesquels des policiers se lâchaient sur tous ceux qui sont pas assez bien blancs et qui souhaitaient notamment enfin la guerre civile, hein, à la manière des carnets de Turner, pour pouvoir enfin exprimer leurs opinions. Donc de fait, pas de force de l'ordre contre ce collectif du 9 mai, non, pas de charge comme ça a lieu très régulièrement quand ce sont des manifestations avec des idées plus ou moins de gauche. Eh bien, le trouble à l'ordre public que génère la vision de cauchemar n'avait pas cessé l'an dernier. Souvenez-vous, nous étions en pleine lutte contre le vol de temps des libéraux au pouvoir qui ont reculé l'âge de la retraite. Et là, il y avait tout ce que vous vouliez, hein, des forces de l'ordre en veux-tu en voilà, avec des arrestations et des amendes pour casserolades, quand même. Des gens à qui on confisquait des casseroles dans la rue. Mais on sait très bien que le fascisme n'a aucun problème avec l'accumulation de capital et les hiérarchies sociales, contrairement aux militants de gauche. Alors, pour ceux qui sont au pouvoir actuellement, ça voulait dire, vaut mieux quand même, comme disait Raphaël Antoven, je préfère voter Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon. Voilà où on en est. Donc, cette année, changement de ton, le même Nunez, Laurent, dénonce les risques de troubles à l'ordre public pour faire interdire la même manifestation. Et il faut sans doute continuer à faire croire à la population que la Macronie est aux antipodes de l'extrême droite et de ses valeurs. Il faut cacher un petit peu les lois contre les étrangers. Bah oui, il y a des élections bientôt et on se fait passer pour des progressistes. Rappelez-vous quand même que la première a lieu en 2018, la première loi contre les étrangers qui rend la vie encore plus difficile pour ces mêmes étrangers. La dernière, 2023, et entre-temps, il y en a eu d'autres. Il faut cacher aussi la présence d'un ex-compagnon de route de l'Action française, Place Beauvau. Il faut cacher l'élection de deux vice-présidents à l'Assemblée nationale avec le soutien des députés de La République En Marche, c'était en 2022, même si c'est rebaptisé Renaissance. La reprise du vocabulaire des FAF, il faut la cacher un petit peu aussi, hein, l'ensauvagement, la France doit rester aux Français, etc. La France doit rester la France. Les références du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep à Pétain et à ses valeurs, au pays légal et au pays réel de Maurras, oui, il l'a dit, à la nation organique, concept fasciste d'une nation vue comme un corps et non pas comme un peuple assemblé, et bien finalement, la justice a décidé que la manifestation sera autorisée. Alors faites gaffe, les filles et les gars, et là je m'adresse à ceux qui appellent à une contre-manifestation sous forme de village des luttes, place du Panthéon à Paris, à partir de 14h, parce qu'une fois qu'ils sont lâchés, les FAF, ils s'en donnent à cœur joie. On aurait pu vous parler des activités de plein air, comme la manifestation qui a lieu dans le Puy-de-Dôme contre 2 gigabassines, encore plus gros que des méga bassines, toujours plus, l'équivalent de 500 piscines olympiques, avec un pompage dans l'Allier, mais bien sûr pendant la période hivernale. On fait attention quand même, en respectant le débit minimum. C'est sûr qu'ils vont faire ça. Alors, on est loin, hein, de Normandie qui, en 2021, il était ministre de l'Agriculture à l'époque, avant de repasser au privé, et il repassera bientôt au public et peut-être au privé. Oui, les portes tournantes. Tiens, j'ai un carnet d'adresses, je te le vends, machin. Ouais, c'est ce qu'a fait Sarkozy, c'est ce qu'a fait Fillon, c'est ce que feront ceux qui sont à la tête de l'État actuellement. Donc Julien de Normandie, il parlait de remplissage par l'eau de pluie. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, ils ont pipoté pendant un certain temps, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? À force de le faire, bah on s'habitue. Donc là, il y avait des manifestations dans le Puy-de-Dôme, actuellement, pour les auditeurs du direct, contre ces gigabassines qui promeuvent quoi ? Bah l'agriculture industrielle, la dégradation du territoire, puisque bah il faut la creuser, cette mégabassine, et puis détruire tout ce qu'il y a autour, pour que ça soit plus facile à sécuriser. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont contre. Mauvaise santé des populations et des écosystèmes, puisque si on enlève l'eau quelque part, on enlève de l'eau. Si on la place dans les mégabassines et les gigas et les terabassines, je ne sais pas jusqu'où ils iront. Mais il a bien fallu la pomper quelque part et donc l'enlever à d'autres organismes vivants, que ce soit de la faune ou de la flore. Des résultats écologiques et économiques incertains, puisque l'idée, c'est toujours de produire toujours plus, comme le veut l'agriculture industrielle. Et là, en ce moment, je ne sais pas si exporter le plus possible, c'est le but du maïs semence qui va être produit dans cette région du Puy-de-Dôme. Eh bien, je ne sais pas si c'est le modèle à suivre et le modèle à proposer à nos enfants. Et enfin, un déni de démocratie, puisque comme à chaque fois, ou presque, on sait très bien que les enquêtes d'utilité publique vont toujours vers le sens des bétonneurs ou des creuseurs de trous. Ah bah oui, forcément, c'est les copains, d'abord. Et puis, faut faire plaisir aux élus, ensuite. Et du coup, on demande l'avis à la population, mais de là à le respecter, je vous laisse imaginer. Donc du coup, tout ça, c'est ce que font les mégabassines là où elles ravagent les territoires et où elles pillent les ressources. Et tiens, on va en rajouter encore une couche parce qu'en 2021, dans une chronique qui s'appelait « Au fil de l'eau » que l'on pouvait entendre sur France Info, ouais, c'est fini, hein, c'était peut-être un peu trop écolo, un certain Christian Amblard, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, donnait son avis sur les bassines. Ça dure une petite minute, on l'écoute.
Mais je pense que faire des réservoirs d'eau et faire des bassines et ainsi de suite, c'est pas la solution responsable et durable, surtout sur le long terme. Je dis même quelquefois que c'est un non-sens, parce que si vous voulez, l'eau qu'on met dans des bassines ou dans des réservoirs, c'est de l'eau qui était soit dans les sols, soit dans les cours d'eau. Donc elle était soit souterraine, soit elle était courante. On fait monter cette ressource eau à l'air dans une situation stagnante. La conséquence directe de tout ça, c'est qu'on a une perte quantitative extrêmement importante. On perd entre 20 et 60% des flux entrants. Donc une perte quantitative. Deuxièmement, une perte qualitative. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on fait monter de l'eau en surface comme ça, elle est exposée au soleil, elle est exposée à une élévation importante de température. Et à ce moment-là, dans la plupart de ces réservoirs d'eau, vous avez ce qu'on appelle une eutrophisation de la masse d'eau, c'est-à-dire une dégradation en fait de sa qualité. Alors que lorsque l'eau, elle est dans les sols, elle humidifie de façon efficace et sans perte, si vous voulez, et sans perte de qualité, l'ensemble des sols. C'est pour ça que je dis que c'est un non-sens de faire passer la ressource en eau qui humidifie les sols, de la faire passer dans des bassines.
Gaspillage et accaparement pour continuer à générer du profit. Bah ouais, les valeurs essentielles des libéraux en économie, on détruit tout, mais l'important c'est qu'on soit riche et que le territoire soit riche, la nation soit riche, oh, le PIB qui augmente. Oh là là, ça fait du bien. Et tant pis pour le reste du monde. Bon, le 4 mai est passé, mais que la force soit avec les opposants à la destruction des milieux de vie et attention aux armes de guerre des forces de l'ordre. Ouais, parce qu'ils continuent à être payés par nos soi-disant représentants. Pourquoi faire ? Juste pour nous casser la gueule. On aurait pu vous parler de délire technicien avec le chargement du combustible nucléaire qui a commencé cette semaine dans la troisième tranche de la centrale de Flamanville. 12 ans après le terme programmé des travaux, quand même un petit peu en retard, après une facture multipliée par 3 qui se compte en milliards, après des malfaçons qui n'ont pas été réparées puisqu'il était évident que EDF ne pouvait pas désencastrer la cuve une fois qu'elle était en place, après du pire et j'en passe, l'EPR de Flamanville est en passe de commencer à fonctionner. Il paraît que les centrales, c'est pour notre indépendance énergétique. Comme si l'uranium qui est chargé en ce moment dans l'EPR de Flamanville venait du coin. Le lobby nucléaire a toujours menti et mentira toujours. Sinon, on ne peut pas vendre une saloperie pareille à la population. C'est le premier point qui devrait nous amener à sortir de cette filière énergétique. D'ailleurs, en sortir, pour en savoir plus, le site du réseau Sortir du Nucléaire, ça s'appelle tout simplement sortirdunucléaire.org, avec des connexions et des contacts dans le coin. On aurait pu vous parler d'une grève à venir le 12 mai sur France Inter pour défendre le pluralisme face à un virage éditorial enclenché par les macronistes en place depuis plusieurs années, renforcé par l'arrivée de Adèle Van Rett. Autant vous dire que les idées de gauche, non, je n'ai pas parlé de Glucksmann, l'ancien soutien de Nicolas Sarkozy, ni du PS d'ailleurs. Donc, les idées de gauche ne sont pas en odeur de sainteté en ce moment sur l'antenne. Et l'humour politique non plus. Donc, si vous n'entendez pas vos émissions préférées lundi 12 mai sur France Inter, c'est normal. Et si vous les entendez toutes, c'est que la greffe macroniste a bien prise. Mais finalement, on aurait pu vous parler de tout ça. On aurait pu vous parler de la flamme olympique aussi, avec son délire pyrotechnique en plein jour dans le port de Marseille. La patrouille de France, des avions qui dessinent des ronds dans le ciel également, avec bien sûr beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre. Et puis un millier de personnes qui avaient été placées porte d'Aix pour manifester un petit peu loin du port. Hein, voilà, c'est l'idée de nos soi-disant représentants. Laisser les manifestants, ceux qui seraient contre, dans des endroits on ne les verrait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de reportages, alors que France 2, France Info étaient à donf sur l'arrivée de la flamme olympique dans le port de Marseille, mercredi 8 mai. Eh oui, une grande fête populaire, pour pas dire populiste. Bon, on vous prépare une petite émission sur les JO. On vous en dit pas plus. Mais si vous avez un petit problème avec les JO, n'oubliez pas d'aller voir sur saccage2024.noblogs.org. saccage2024.noblogs.org pour être au courant de ce qui se passe. Mais finalement, on a préféré vous parler, et vous allez voir que c'est super fun, de transphobie. Patron, patrie, patriarcat, même système, même combat. Alors système écrit d'une drôle de manière, mais quand même, 150 personnes ont défilé dans les rues du Mans dimanche 5 mai pour dénoncer les projets de loi visant directement la transition de genre à l'appel de la CIM. La CIM qui veut dire en fait collectif, ça s'explique après. La CIM qui veut dire en fait collectif intersectionnaliste du Mans et de ses environs.
Résistance!
Alors, résistance ou résistrance, c'est ce que l'on pouvait lire sur les autocollants qui ont servi à redécorer rue Auvray, la devanture de la permanence des Républicains, en y ajoutant des pages qui permettaient de faire le mot transphobe au pluriel. Pour dire que on n'était pas tout à fait d'accord, les manifestants n'étaient pas tout à fait d'accord avec les projets de loi, les propositions de loi qui visent directement la transition de genre. On avait également au début de la manifestation qui abritait des drapeaux de la CNT, de l'UNEF, de Sud, de Révolution Permanente, et les drapeaux trans bien sûr avec des couleurs violacées diverses et variées, une banderole qui indiquait « le système capitaliste tue ». Et également une autre indiquant solidarité avec les queers du monde entier.
J'arrête.
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le cul.
Le cul comme queer. Tu peux habiller une poupée avec des pantalons ou des robes, mais elle demeure toujours la même poupée. C'est la même chose pour toi. Ce qui est important, c'est que tu découvres comment tu souhaites être. Personne ne peut décider à ta place comment tu aimerais t'habiller ou le genre auquel tu préfères t'identifier. À ta façon, tu peux vouloir mélanger les choses plus associées aux filles et d'autres plus associées aux garçons. Voilà ce que l'on peut lire sur le dictionnaire anarchiste des enfants, un dictionnaire paru il n'y a pas si longtemps à l'atelier de création libertaire, et vous pouvez l'acheter et retrouver toutes les publications à atelierdecréationlibertaire.com. Donc on en sait déjà un petit peu plus sur les queers. On pouvait également entendre des slogans comme « Mon corps, mon choix et ferme ta gueule »,« Queer et fier et révolutionnaire ». En fin de marche, qui a duré un peu plus d'une heure et demie, motivés, ils étaient motivés. Retour place de la République, nous avons alors interrogé un membre du collectif La CIM que nous appellerons l'invité mystère. Nous sommes place de la République dimanche 5 mai, il est quasiment 19h, on est à la fin d'une manifestation qui a été organisée par la CIM. Alors qu'est-ce que la CIM ?
Alors la CIM, on a choisi la plutôt que le par rapport à la CIM des arbres, c'était plus un effet de style. Mais sinon c'est le collectif intersectionnaliste du Mans et des environs. Donc c'est un collectif qui a été créé un peu avant le 8 mars. Parce qu'on trouvait qu'au Mans, et puis même ailleurs, pour la journée des droits des femmes et des minorités de genre, les minorités de genre étaient beaucoup oubliées et qu'il y avait aussi très peu d'intersectionnalité dans les cortèges du 8 mars. Donc on voulait un peu changer ça. Il y a plusieurs personnes de différentes organisations. Donc il y a la CNT, les collages féministes, l'Assemblée Générale Antifasciste, le collectif antifasciste et le Mouvement National Lycéen. Plusieurs individus de ces organisations se sont rassemblés. Il y a des individus qui n'ont aucune organisation qui sont aussi venus dans le groupe pour travailler sur le cortège du coup qu'on a appelé Radical du 8 mars. Et le 8 mars, on a pu voir un gros cortège qui réunissait à la fois la question de la Palestine, la question des personnes trans, la question des TDS. On a vraiment essayé de rassembler tout ça.
Donc TDS pour travailleurs du sexe. Alors de fait, l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est ?
En fait, il faut penser comme une intersection, un carrefour. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rues qui vont à un même centre. Et du coup, il y a la question des droits des femmes. Mais après, dans une autre rue, il y a la question des personnes trans, il y a la question des personnes racisées qui subissent le racisme, il y a la question des personnes TDS qui subissent moult discriminations, stigmatisations, etc. En fait, toutes les personnes qui subissent des oppressions, va ensemble, s'entremêle, et du coup, on peut cumuler plusieurs oppressions. Donc être à la fois une femme, trans, racisée, TDS, handicapé. Voilà, du coup l'intersectionnalité c'est ça. C'est le fait que toutes les luttes s'entrecroisent et qu'il faut les combattre au même titre les unes et les autres.
Alors, combattre les luttes, non. Bien sûr, l'intervenant voulait indiquer que toutes les oppressions s'entrecroisent et qu'il faut les combattre les unes et les autres. Donc ces oppressions, que doit-on en faire ? Eh bien, on reprend avec notre invité mystère. Alors, et les unes et les autres, mais pas ensemble ?
Bah, du coup, si ensemble, parce que on peut pas en fait défendre le droit des femmes sans défendre le droit des personnes handicapées, puisqu'il y a des femmes qui sont handicapées. On peut pas défendre les femmes sans les personnes trans non plus. Vous voyez, en fait,
les femmes trans,
les personnes non binaires, toutes ces personnes qui subissent des oppressions, on peut pas passer outre.
Et vous trouvez que dans les cortèges habituels, ce n'est pas assez mis en avant ? Par exemple, pour le 8 mars, il y aurait l'idée de défendre les femmes, mais en oubliant peut-être le reste des oppressions que subissent les femmes et les femmes minoritaires, racisées par exemple, ou TDS, etc.
Oui, c'est exactement ça. C'est que après le CFU cette année, donc le collectif féministe unitaire qui rassemble plusieurs organisations et collectifs, avait fait un discours en ce sens vraiment intersectionnel où on a mis, parce que j'en fais aussi partie, on a mis aussi dans le discours les femmes handies, les femmes racisées, les TDS, les femmes trans et puis les personnes non binaires. On a vraiment voulu tout mettre parce que dans l'autre discours qu'il y a eu, il n'y avait pas du tout ces questions-là d'aborder. Et c'est vraiment hyper important, surtout avec la montée de l'extrême droite qui, elle, va être très combative sur toutes les personnes minorisées.
L'intersectionnalisme qui est assumé par la CIM est ouvertement pour la convergence des luttes, mais de toutes les luttes, c'est-à-dire de ne pas oublier les minoritaires au sein des mouvements et leurs luttes spécifiques. On est loin des dérives identitaires d'intersectionnalistes qui jettent des anathèmes, chez les musulmans on parlerait de fatwa, contre ceux qui ne subissent pas les mêmes oppressions. Et du coup, il y a une espèce de hiérarchisation des oppressions pour dire bah, que moi, j'ai subi plus que toi, donc moi avant, et puis toi peut-être après. Ce dimanche, la position victimaire est totalement remplacée dans le cortège par une position offensive de revendication à exister sans jugement social et sans hiérarchie. On reconnaît une petite patte libertaire quand même. Mais au fait, que revendiquent la CIM et ceux qui manifestaient dimanche 5 mai? On écoute à nouveau notre invité mystère.
Qu'est-ce que vous revendiquez? J'ai lu sur le tract une transition dépsychiatrisée. C'est-à-dire qu'actuellement, est-ce qu'il y a une mainmise de la psychiatrie sur les gens qui veulent une transition de genre?
Normalement, il n'y a plus besoin d'attestation psychiatre pour avoir accès aux hormones et aux chirurgies. Or, malgré ça, malgré cette loi-là, on est toujours quasiment obligé, en tout cas les chirurgiens demandent beaucoup encore d'attestation psychiatre. Et il faut savoir que ce qu'on entend par dépsychiatriser, c'est aussi par rapport aux thérapies de conversion qui sont interdites, mais qui pourtant en fait semblent prendre une autre forme en fait. C'est le fait de vouloir psychiatriser autant la transition des mineurs, il y a quand même une grosse idée derrière la tête de vouloir convertir au fait de ne plus être trans, quoi.
Alors ça veut dire quoi, convertir les gens à l'hétérosexualité?
Ben là, pour la question trans, ce serait plutôt au fait d'être cisgenre. Enfin, vraiment essayer de... un peu comme on a fait avec l'homosexualité à l'époque, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment l'autodétermination pour tous. Parce que il faut savoir que quand on parle de transition des mineurs, les gens s'affolent. Mais en vrai, c'est quelque chose de suivi. Par exemple, pour tout ce qui est chirurgie, c'est pas avant 16 ans, c'est très encadré. Enfin, tout est très encadré déjà, en fait. Mais là, l'idée, c'est vraiment de les interdire purement et simplement.
Alors là, vous parlez d'un projet de loi qui a été proposé par des sénateurs, c'est ça?
Pour ce qui est du Sénat, c'est les Républicains. Et par contre, le Rassemblement national, c'est l'Assemblée nationale. Donc, c'est deux projets de loi différents, mais pour les mêmes objectifs, on va dire.
Vous voulez lutter également contre les mutilations que subissent les enfants intersexes, c'est-à-dire dont le genre n'est pas déterminé à la naissance. Mais alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces enfants?
Alors, pour être honnête, c'est assez trash. Donc voilà, mais en gros, c'est les médecins qui décident, en gros, si la personne a une vulve ou un pénis, en fonction de l'anatomie, en fait, de la personne en question et de la... entre guillemets, de la facilité. Et du coup, c'est des opérations chirurgicales très lourdes. C'est vraiment des atrocités qui sont faites aux enfants pour une question de binarité, parce qu'il n'y a pas de problème de santé à être intersexe, en fait. C'est vraiment une question purement binaire il faut que ce soit une femme, soit un homme, et pas autrement.
Vous demandez également le féminisme pour les trans. Et alors là, qu'est-ce qu'un TERF? Ou une TERF, je ne sais pas d'ailleurs.
Alors, une TERF, j'ai pas le sigle, là, ouais, ça. C'est ça. Mais en gros, c'est des personnes qui excluent les personnes trans des luttes féministes. Et y a les très connues Marguerite Stern et Dora Mouto qui ont sorti leurs livres, qui sont justement des TERF. Donc, c'est l'idée d'exclure les personnes trans et de considérer, en fait, notamment les femmes trans, comme des hommes qui s'introduisent en fait au niveau des espaces féminins, on va dire ça comme ça.
Et qui n'ont donc pas du tout de légitimité à lutter au nom des femmes?
En tout cas pour elles, oui. Pour elles, oui, les femmes trans n'auraient pas cette légitimité. En fait, c'est vraiment... Elles ne parlent même pas de femmes trans. Elles parlent d'hommes transidentifiés, donc on voit... à quel point c'est problématique.
Les TERF, oui, alors vous avez peut-être entendu parler d'un livre qui s'appelle Transmania, qui est de fait une espèce de manifeste TERF. Donc ça veut dire trans exclusionnari radical féministe, en gros des féministes radicales excluant les personnes trans, mais c'était de l'anglais, vous ne l'avez pas reconnu à l'accent. Voilà l'une des dérives identitaires dont je parlais tout à l'heure. On se met à exclure, bah oui, toi t'es pas tout à fait dans la norme, voilà. Une norme féministe qui fait que si tu es trans, tu as choisi ton genre, mais du coup, tu ne peux pas parler, même si tu te sens femme, au nom des femmes. Voilà le genre de choses auxquelles on peut avoir affaire dans l'intersectionnalisme. Actuellement, quand un mineur est pris en charge médicalement pour une transition de genre, il peut obtenir des bloqueurs de puberté à la préadolescence. Ce sont des médicaments qui réduisent la production d'hormones mâles ou femelles, qui existent depuis les années 70 et qui sont déjà donnés à des enfants qui vivent mal une puberté précoce. En clair, la barbe de papa ou les seins de maman à 12 ans, pas facile. Donc du coup, il y a des médicaments qui s'appellent des bloqueurs de puberté. Il y a également pour les enfants pris en charge médicalement pour une transition de genre, des traitements hormonaux féminisants ou masculinisants à partir de 16 ans. Alors là, c'est l'inverse, ce sont des traitements qui orientent clairement le corps vers un genre. Pour la chirurgie, les opérations chirurgicales de réassignation, donc pour modifier l'appareil génital notamment, ne sont accessibles qu'à partir de 18 ans, sauf pour la torsoplastie, c'est-à-dire la transformation de la poitrine féminine en torse masculin, qui peut dans certains cas être autorisée, donc vous voyez qu'il y a des garde-fous, pour les adolescents. La proposition de loi dont on parlait dans l'interview, intitulée « Prise en charge des mineurs en questionnement de genre », a été déposée par Mme Jacqueline Eustache-Brinio, qui est une sénatrice Les Républicains. Et elle sera discutée, cette proposition de loi, en séance publique fin mai. Et bien, dans cette proposition de loi, l'idée est de repousser l'ensemble des actes médicaux après 18 ans. Pour les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux, ça devient un petit peu trop tardif. Et le texte veut également rénover la pédopsychiatrie, dans le but à peine voilé de psychiatriser les questionnements de genre. Comme l'homosexualité avant 1969, le questionnement de genre devient un trouble mental qu'il faut traiter comme tel. La protection des enfants, puisque c'est l'élément de langage utilisé par les promoteurs du texte, passerait bien sûr par l'interdiction des opérations effectuées sur les bébés intersexes. Ah ça, ce serait peut-être quelque chose qui serait intéressant pour protéger les enfants. Ça pourrait passer par là. Du coup, il n'y a pas du tout ce genre de choses dans le texte, la proposition de loi, Les Républicains. Un document de Amnesty International évoque 1,7% d'enfants intersexes, c'est-à-dire dont le sexe n'est pas clairement défini à la naissance pour la France. La proportion est énorme. D'autres publications indiquent un enfant sur 200, 0,5%, ou un enfant sur 10 000, 0,01%. Tout dépend des critères retenus. En l'occurrence, la taille du clitoris, la taille du pénis. Mais puisqu'actuellement, la science avance et qu'il est possible de déterminer la part du féminin et du masculin dans un corps humain, à travers une analyse du génome, il conviendrait de faire le test avant de décider s'il faut couper ce pénis ou enlever cet ovaire qui fait tache dans le tableau et peut-être laisser le temps à l'enfant lui-même de prendre la décision suivant son orientation. Mais ça impliquerait que les mascus ferment leur gueule, tout comme les meufs qui réclament le girl power, et que nos assignations à la normalité soient remises en question. Bon, ben voilà un autre combat à intersectionnaliser. Hein, la normalité, qu'est-ce que ça peut bien être et si on s'en débarrassait? Prochain rendez-vous au cinéma. Un ciné-débat, comment lutter contre les LGBTQIA-phobie au cinéma Le Royal, route d'Angers comme on dit dans le coin, une soirée à l'initiative de Homogène, du Planning Familial 72 et du syndicat Sud de Éducation Nationale. Rendez-vous autour d'un documentaire de Mediapart, donc ce jeudi 16 mai, intitulé « Guet-apens, des crimes invisibles ». Un rendez-vous en présence de l'un des réalisateurs, Mathieu Magnaudet, qui est journaliste à Mediapart. Le programme de ce 16 mai au cinéma Le Royal, route d'Angers. 18h30, un plateau radio autour des LGBTQIA-phobies avec Radio Alpa. 19h30, projection du documentaire Guet-apens. Et 20h30, débat public avec donc le public. Je vais y arriver. Voilà, c'est tout ce qui se passera. Et le 17, c'est aussi la journée de lutte contre les transphobies. Eh bien là, peut-être qu'il y aura une manif. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'information. La lutte continue un petit peu partout. On vous rappelle qu'à 14h tous les samedis, il y a une manifestation contre ce qui se passe dans la bande de Gaza actuellement. On vous rappelle qu'il existe également cette rue de la Marne, un centre social autogéré qui s'appelle l'Allumette, qui a besoin de sous, qui a besoin d'aide et qui a besoin aussi de voir des gens pour faire des activités. Cette rue de la Marne, ils sont le mercredi et le samedi après-midi en permanence sur place. Il se passe plein de trucs. Ben, je vous recommande d'aller voir sarthe.demosphère.net pour en savoir un peu plus. Et en attendant de se retrouver sans doute la semaine prochaine, je vous dis tout simplement allez, au revoir.